Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. C'est la suite avec Marc-André Leclerc. Je pense que vous avez apprécié beaucoup ce qui s'est dit hier. J'ai bien aimé la fin du podcast où est-ce qu'on parle de la rupture entre Marc-André et les conservateurs. Évidemment, on va continuer avec son ouvrage, son livre aujourd'hui. Peut-être quelques questions sur son passage dans les médias dorénavant. Je pense qu'il y a un petit peu plus de liberté de ce côté-là.
Un des éléments qui m'a le plus fasciné dès le départ du livre, c'est le témoignage que donne Luc Lavoie sur son passage avec les conservateurs fédéraux, notamment avec Lucien Bouchard, qui est quand même un personnage plus grand que nature, il faut le dire. Là. On dirait que je n'ai pas été surpris de voir le comportement de Lucien Bouchard. Donc, en gros, je paraphrase quelques bouts du livre, là, mais Lucien Bouchard est recruté par Brian Mulroney. Il n'est pas encore élu, donc il est nommé ministre, mais là, il doit se présenter dans une partielle. Et là, la partielle est comme vraiment loin d'être gagnée. Il y a des sondages qui montrent que le libéral, je pense, serait peut-être même jusqu'à 20 points en avance d'un sondage. Et là, Luc Lavoie, qui à l'époque travaille directement au bureau de Brian Mulroney, Lucien Bouchard, lui, ça ne dérange pas trop hein, qui appartient à qui. Fait qu'il fait venir Luc Lavoie dans le bureau puis il dit « Maintenant, tu travailles avec moi. » Il dit « Ouais, mais moi, je travaille au bureau de Brian Mulroney. » Il dit « T'as peu. » Il prend le téléphone, il appelle Brian, il dit « Hey, lui, à cette heure, il travaille avec moi. » Il raccroche. puis là, Luc Lavoie, il dit « Hey, je me trimballais d'un bord et l'autre. Je travaillais comme pour les deux en même temps. » Ce sont des personnages un peu... C'est des personnages quand même assez spectaculaires qu'on découvre avec Luc Lavoie là-dedans. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui t'a marqué aussi là, dans ce passage-là avec Lucien Bouchard, mais moi, j'ai trouvé ça succulent.
Oui, non, tu as raison, Frank, de le noter, parce que là, également, là, c'est parce que la partielle, ça va mal. Puis là, mon Luc Lavoie, là, moi, j'adore cette anecdote-là. Luc Lavoie, il était à Ottawa. Il travaille pour Lucien Bouchard, qui est ministre, mais non élu. Là, ça va mal dans la partielle. Mulroney l'appelle. Mulroney est à Montréal, au Reine-Élisabeth. Il dit « Viens-t'en ». Fait que là, Luc Lavoie, il rentre dans la chambre d'hôtel, dans la suite à Brian Mulroney. Là, il met le fameux sondage devant lui, là où Lucien Bouchard perd. Là. Je pense que c'était 19 points de retard sur le candidat libéral. Mais là, il faut comprendre que dans les sondages, à ce moment-là, ça va mal pour Mulroney. Il ne peut pas se permettre. Là. Il a recruté Lucien Bouchard. Il ne peut pas se permettre qu'il perde une partielle. Fait que là, Brian Mulroney, il dit à Luc, il dit là, il dit, tu prends ton char, puis tu t'en vas à Alma, parce que sa parcelle était là, et tu t'en vas à Alma. Fait que là, mon Luc Lavoie, il dit, ouais, mais là, j'ai pas de vêtements, j'ai pas de brosse à dents. Et il dit, des brosses à dents, on va t'en trouver à Alma. Fait que là, mon Luc Lavoie s'en va, il arrive à Alma, dans le local électoral est au deuxième étage de la fameuse brasserie Mario Tremblay.
Oh.
Fait que là, bien il placé. Rentre là, il est ouais, bien placé, mais là, Luc Lavoie, il rentre là vers 6-7 heures le soir. Après le souper, et là, il rentre dans le local électoral et il y a Lucien Bouchard, tout seul, pas de bénévole, assis à une table, il mange une toast au beurre d'épinote avec un couteau et une fourchette. Puis là, il dit à Luc Lavoie, il dit « Je lâche tout. J'arrête. » Il dit « Je suis pas fait pour ça, papa, papa. » Puis là, mon Luc, il dit « Moi, là, travailler avec des losers, ça me tente pas. » Puis là, Luc, il est parti à son hôtel. Là, mon Lucien Bouchard court après, essaie de chercher. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que là, tu sais, Lucien Bouchard, là, il avait, dans son groupe, là, c'est parce que ce que j'en comprends, puis ce que Luc a réussi à démêler, puis finalement à remporter la partielle, on connaît la suite, mais c'est parce qu'il y avait toutes des chicanes internes entre les souverainistes, les fédéralistes, puis là, en fait, ils ont créé des comités, puis ils ont réussi à passer ça. Mais moi, là, l'anecdote qui part, il n'y a pas de brosse à dents, il se ramasse là-bas, il s'est réveillé à Ottawa, il s'est couché à Alma. Lucien Bouchard qui court après Luc Lavoie, là, Mulroney qui veut des nouvelles, il parle à Luc le lendemain. Finalement, ils ont réussi là, avec un contact à Brian Mulroney, un ancien ami avocat, ancien collègue d'école, à comme ouvrir un deuxième local satellite. En tout cas, une affaire impossible. En plus, raconter à la sauce Luc Lavoie, là, ça, il manque pas de péripéties là-dedans.
Non, puis Luc Lavoie, il y avait à gérer des tempéraments, entre guillemets, assez bouillants. Là. T'sais, Lucien Bouchard, t'sais, quand même grand monsieur, une grosse voix, il en imposait beaucoup. Mais une facette que je ne connaissais pas, c'est Brian Mulroney aussi, qui était quand même pas piqué des verres. Et tu racontes dans le livre une anecdote que Luc Lavoie t'a fait part. Donc, je mets en contexte brièvement. On est dans la campagne électorale où Mulroney essaye de vendre aux Canadiens l'accord de libre-échange, l'ALENA, donc dans le fond, qui à l'époque n'existe pas encore, mais qui a à être négocié. Et là, il y a des manifestations. Il y a des manifestations un peu partout. Et Brian Mulroney, ça commence à le fatiguer. Et là, tu racontes l'histoire suivante. Il a monté sur la première marche où il faisait des bye-bye au monde avant d'entrer dans l'autobus. Ça, c'est entre Toronto et Montréal durant le trajet. Je le vois dans sa face, c'est Luc Lavoie qui parle, qui regarde vers la gauche. Il redescend de l'autobus. Je me demande ce qui se passe. Il s'en va vers un des manifestants, le plus gros du groupe. Mulroney lui met un doigt d'en face et lui dit « You know what? Go fuck yourself, asshole. » Les médias ne l'ont pas entendu, mais moi, je l'ai entendu. Quand j'ai rapporté ces paroles dans l'autobus, Mila était en fuite. Monsieur Mulroney était assis dans sa chaise et a dit « I feel so much better.
» Ouais, la pression est sortie, là. L'estime est sortie. Mais ça, c'est effectivement, parce que si on est là, sur la campagne fédérale de 88, puis ce qu'on comprend également, c'est qu'à l'interne, chez les progressistes conservateurs, il y avait comme un peu cette dualité-là, là, puis à un moment donné, de dire, ben, ça nous nuit là, de parler de l'ALENA, on va mettre ça aux poubelles, puis finalement, ils ont comme réécrit l'équipe. Et ça aussi, ça montre aussi des fois là, les chicanes qui arrivent entre le War Room puis les gens qui sont sur l'autobus et au fédéral en plus, et l'avion. Là. Parce que les gens qui sont sur le terrain avec le chef, dans ce cas-là, c'est le premier ministre, M. Mulroney, tu vis une réalité là, qui est différente de tes collègues qui sont souvent à Ottawa, dans le cas du fédéral, et qui, eux, ne vivent pas la même chose. Là. Tu sens les choses, tu vois comment ton patron réagit. Fait que là, ils ont comme sur le terrain d'essayer de réécrire là, la stratégie de campagne, puis finalement d'aller à fond de train sur l'ALENA. Puis le reste, ben, on le connaît là, comment ça a été quand même une pièce de maîtresse, oui, dans la campagne, mais après ça, pour les relations là, Canada-États-Unis.
Un des éléments intéressants, je trouvais, dans le livre, puis ça a résonné chez pour Yann aussi, c'est que tu parles de personnages justement comme Yann Plante. Donc, je pense que Yann, que tu sais un peu c'est qui. Tu l'as croisé à l'ADQ à l'époque. Et moi, je savais un peu c'était qui parce que, étant né à Saint-Félicien, Denis Lebel, ça a été mon député pendant des années. Donc, et ça, c'est un truc que les gens ne savent pas vraiment si vous êtes plutôt si vous venez de Québec ou Montréal. Moi, depuis que je suis à Québec, mes députés, je ne les ai jamais rencontrés. Ouais. Mais à Robertval, Saint-Félicien, tout ça, Denis Lebel, je devais le croiser 6-7 fois par année à la traversée du lac Saint-Jean. Il venait au cégep à Saint-Félicien. Il était là dans des soupers pour des œuvres caritatives. Tout ça. Donc, les députés en région, on les voit, on les connaît. Là. C'est très important, ça.
En région, c'est même pas obligé d'être bien éloigné. Moi, quand j'étais à Bellechasse, j'avais Dominique Vien au provincial. On la voyait partout. Là, je suis à Lévis, qui est plus gros, évidemment. J'ai Dominique Vien au fédéral, on ne la voit pas nulle part. C'est vraiment impressionnant quand même. Le clash, là, c'est à peu près du 50 000 et moins habitants. Là, tu vas voir beaucoup tes députés. Mais quand tu arrives dans le 50 000 et plus dans les villes, ils deviennent complètement absents.
Ça, comme gars de région, tu connaissais ces affaires-là, mais est-ce que quand on monte dans l'appareil de parti, par exemple, comme le Parti conservateur, est-ce qu'ils sont au courant que le candidat dans des coins, ben, je dirais pas rural, là, mais tu sais, dans les régions du Québec, entre autres, ailleurs dans le Canada, je sais pas comment c'est, mais c'est très important. Là. Si t'es pas moindrement branché sur ton milieu, là, Denis Lebel, entre autres, avait été maire de Robertval, donc il était très connu dans le coin. Mais peu importe le parti, je pense que en région, c'est la personne qui est vraiment souvent plus importante que le parti. Là.
Oui, totalement. T'sais, puis moi, j'ai fait la campagne parce que Denis Lebel, là, c'est un ami de la famille. C'est comme un oncle qu'on a fait. Il a fait les 400 coups avec mon père puis mon oncle. Puis, qu'on a fait quand M. Lebel s'est lancé sur la campagne de 2007, une élection partielle dans Robertval-Lac-Saint-Jean à l'époque, parce que Michel Gauthier, qui était au Bloc québécois, avait décidé de quitter. Il s'était ramassé à la télé à TQS. Quand Denis s'est lancé, ben c'est ça, c'est pas une vedette locale qui a une résonance. Mais ça, là, ça se jase beaucoup en caucus, là, entre les députés plus ruraux puis plus urbains. Là. Puis souvent, les urbains sont jaloux des députés ou des candidats en milieu. Parce qu'il y a une vie dynamique. Frank, tu le disais, tu sais, je veux dire, le député peut être à Robertval, à Saint-Félicien, à Delbeau, et va à Alma, il se promène, tandis que souvent, les députés à Montréal ou à Québec, ici dans la province, ben, sont comme un peu dans la masse. Là. Comme à Québec, ben, tout le monde, le maire, c'est Bruno Marchand. Mais dans des comtés plus ruraux, ben, t'as 25 maires. T'sais. Effectivement, même les députés plus urbains sont jaloux. Là. Ils voient qu'il y a une dynamique qui se promène et qui sont des acteurs reconnus, que les gens les reconnaissent parce qu'on s'identifie plus, là, je pense, là, lorsqu'on est en région, à nos élus, puis souvent en ville. Vous avez raison, on ne les connaît même pas, on ne sait même pas c'est qui, on ne les voit pas. Fait qu'il y a une grosse différence. Puis oui, ça... Mais c'est pour ça qu'en 2018, en juin 2018, quand il y a une partielle dans Chicoutimi-le-Fjord, ben, c'est sûr qu'un gars comme Richard Martel, ben, c'est sûr que ça a un impact. Oui. Là, puis ça nous a permis de. Oui. C'était une des belles soirées en politique là, quand tu viens switcher, flipper un comté comme ça là, ce jour-là.
Ouais, c'est comme dit l'expression, Richard Martel, il était connu comme Barabbas dans la paroisse.
Là,
non, non, c'est vrai, là, c'est comme ça que ça marche. Souvent même, c'est très vrai ce que tu dis, tu sais, à Québec, Montréal, les gens connaissent plus le maire ou la mairesse de la ville. Ouais. Au Lac-Saint-Jean, les gens savaient plus c'était qui, Denis Lebel, par exemple, ou Michel Gauthier, que le maire que le maire de Saint-Fulgence ou je ne sais pas où, là, les députés ont une plus grosse impact, je pense, que d'être dans des...
Mais moi, on a fait des sondages là, à l'époque, en 2015, avant l'élection de 2015. Puis quand on prenait exemple un Denis Lebel au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il était plus connu que les François Legault, que les Justin Trudeau. Il était plus connu que les premiers ministres. Mm-hmm. Fait que ça en dit beaucoup là, quand on... Ton élu local, régional, est plus connu que les premiers ministres. Que normalement, là, c'est un Justin Trudeau, là, tu fais un sondage, qui est Justin Trudeau? Là, t'es dans du 97-98%, mais avec Denis Lebel, par exemple, là, on est à 99-100%.
Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de ton passage aux médias. Premièrement, tu dois te sentir un petit peu plus libre, j'ai l'impression. Deuxièmement, une des choses que j'aimerais qu'on aborde, c'est la chose suivante. Des vrais conservateurs affichés dans le monde médiatique... C'est rare comme de la marde de pape, là. Je veux dire, t'en es un. Enfin, on en a un qui est clairement affiché. Il y a tout ce qui se passe dans la région de Québec avec la Radio X et ainsi de suite. Je veux dire, ça a toujours été évident. Mais c'est des citations de radio régionales. Nous, par exemple, moi et Frank, les entrées à Radio X, les portes sont grandes ouvertes, mais au niveau... pour le reste, on est condamné un peu au web, si on veut, parce qu'il y a... Il y a une clique carrément dans le monde médiatique. Toi, tu as réussi à percer cette clique-là en étant affiché ouvertement conservateur. Un, c'est rare. Puis deux, comment tu te sens dans ce milieu-là, éventuellement?
Ben moi, je me sens très bien parce que moi, je suis un démocrate, pas dans le sens républicain-démocrate aux États-Unis, dans le sens, moi, j'aime ça débattre avec les gens. Ben, c'est pour ça que j'étais à la joute, entre autres. Puis moi, je respecte, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mm-hmm. OK? Tu as le droit, on peut s'entendre, le souverainiste, fédéraliste, puis peu importe, puis il y en a eu des débats dans les dernières années. Moi, je respecte ça, fait que moi, je me sens très bien là-dedans. Moi, j'ai mon expérience, tu sais, moi, j'ai 40 ans, je suis un gars de région, j'ai deux enfants qui sont affectés par la grève de la FAE depuis 3-4 semaines. Je veux dire, puis moi, le plus beau commentaire que j'ai des gens que je croise dans la rue, c'est, tu sais, Marc, tu parles, tu sais, comme le vrai monde, puis dans le sens, c'est tu... T'sais, on sent que ce que tu vis, ben on le vit également. Mm-hmm. Puis, t'sais, moi, je suis pas là pour jouer un jeu. Moi, je suis pas un ancien élu. Fait que j'ai pas. Des fois, je trouve, c'est sûr que des fois, je suis peut-être pas le plus connu parmi mes collègues. C'est sûr qu'un Gaétan Barrette est beaucoup plus connu que moi. Mais également, moi, ça me donne ce recul-là. Ce que j'aime également, c'est que moi, j'ai jamais fait de politique partisane au provincial.
Okay. Ouais, ouais, ouais.
Je l'ai dit publiquement, tu sais, ma première fois que j'ai voté pour ADQ, Mario Dumont. Mais je me suis promené un peu au provincial, tu sais, je suis pas allé à la guerre avec des gens, fait que moi, je suis très à l'aise de parler du provincial, au fédéral aussi, mais c'est sûr, du fédéral, si je dis de quoi contre des conservateurs, ben là, j'en ai deux, trois qui m'écrivent, puis là, ils sont pas contents, puis je devrais les défendre. Mais des fois je suis là, puis je suis d'accord, vous faites des bonnes affaires, mais si vous faites une mauvaise chose,
on va dire.
Ben moi, je perdrai pas ma crédibilité,
ouais,
je vais le dire.
Fait que tu te sens, ouais, comme plus libre, ou en tout cas, c'est plus facile pour le provincial.
Que ouais, mais c'est parce que, ouais, puis tu sais, à travers les années, tu te détaches aussi, tu sais, je connais encore plein de gens, tu sais, qui travaillent avec M. Poilievre, ou qui travaillent avec les députés conservateurs, mais j'ai des amis aussi dans d'autres formations politiques, puis c'est ça aussi la beauté, les gens pensent que... Mm-hmm. T'sais, on s'aime pas, on s'entend pas. T'sais. Un des gars qui a vécu, qui a grandi en face de chez moi, il est dans le livre, c'est Vincent Garneau, puis il a travaillé pendant plusieurs années avec Christophe Freeland. T'sais, on était élevés ensemble, là. Il venait jouer chez nous, j'allais jouer chez eux, puis la vie fait en sorte qu'on s'est retrouvés à Ottawa, ouais. De Robert Ball à Ottawa, dans deux partis politiques différents. Mais non, moi, je me sens très à l'aise, puis moi, j'apporte mes idées. Oui, c'est des idées qui sont de droite, puis oui, c'est des idées qui sont conservatrices. Mais d'un gars de 40 ans, qui a une jeune famille, qui est tanné de payer des taxes puis des impôts, puis qui trouve que le tramway, c'était pas une bonne idée. Fait que ça, je vais le dire. Mm-hmm. Puis oui, j'ai des collègues qui sont pas d'accord avec ça, mais je pense que c'est de là le ouais. débat également. Puis, tu sais, d'année en année, j'ai différentes tribunes, puis ça, je suis ouais. content de ça.
Tu m'amènes sur le tramway, juste un mot là-dessus, je trouve ça intéressant. Vers la page 66-67 du livre, à un moment donné, tu dis... En politique, ça prend des gens qui sont fidèles autour d'un député ou d'un chef, tout ça, mais ça prend aussi des gens qui ne sont pas juste fidèles, qui sont honnêtes et qui sont capables, à un moment donné, de dire au député ou au chef, là, mon gars, tu es dans le champ et il faut que tu changes de trac. Quand tu as vu, par exemple, que le Bruno Marchand commençait à tripoter des chiffres de sondage, ça a été commenté par Jean-Marc Léger après, oui, oui, on leur avait dit... qui prenait des grosses libertés avec les chiffres. Après ça, qu'on voit que 65% de la population était contre son projet, ça te donne-tu l'impression je prends cet exemple-là, mais on pourrait en prendre plein d'autres, mais ça donne un peu l'impression qu'il manque ça autour de lui. Là. De gens que maintenant, ils disent, écoute, Bruno, je vais te le dire, là, mais je pense que tu es dans le champ.
Oui, mais il faut que tu le dises. Hey, puis ça, c'est tough. Là. Ça, c'est tough à dire, par exemple, parce que, tu sais, c'est facile à gérer de ça entre nous aujourd'hui, mais de dire, parce que l'élu, c'est ton employeur, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu veux qu'il soit content, mais également d'y rendre service. La plus grande qualité pour moi, c'est la loyauté. Faut que tu sois loyal, tu sais. Mais la loyauté, ça vient pas aussi avec le fait d'être aveugle, là. Faut que tu sois capable de dire, ben, ça, c'est bien, puis ça, c'est pas bien. Et c'est extrêmement difficile, surtout que, la politique fait en sorte par la force des choses. Tu sais, moi, je suis devenu chef de cabinet adjoint, à peu près ça, chef de cabinet. Mais quand je suis devenu chef de cabinet, là, ma plus jeune, elle avait un mois. Je revenais là, de mon congé de paternité de deux semaines. Tu sais, en politique, ce n'est pas des longs congés. J'avais pris deux semaines, je suis revenu. Puis trois semaines plus tard, je me fais nommer chef de cabinet. Tu sais. Mais c'est sûr que ça a un impact sur la famille là, immense, là. Fait que, tu sais, tu le fais, mais ça fait en sorte que souvent, c'est des gens, justement, qui n'ont pas eu leurs enfants, qui n'ont pas bâti leur famille. Fait que ça reste qu'il y a des gens aussi qui sont plutôt jeunes. Tu sais, on voit avec les ministres, les attachés de presse, tout ça. Mais pourquoi? Parce que c'est sûr qu'à 45 ans, si tu as trois enfants, là, ben non, ça ne marchera pas en politique. Il n'a pas d'heure. Moi, j'ai déjà eu des appels là, en politique le 31 décembre à 19h. Tu sais, tu gères un dossier le 31 décembre à 19h. Comme chef de cabinet, j'avais tout le temps un sénateur qui se mettait les pieds dans les plats le samedi à 4h. Quand tu es chef de cabinet, là, ce que tu veux pas, là, quand tu es 4-5h le vendredi, tu dis « OK, on a une grosse semaine », c'est ton directeur des communications qui rentre dans ton bureau. Parce que c'est pas pour te dire bonsoir ou prendre un petit verre de bière sur le bord du bureau. Là. C'est pour te dire « Ah, regarde bien qui s'est mis les pieds dans les
plats. » Il y a peut-être quelqu'un qui a pris un petit verre de trop quelque part.
Ouais, quelqu'un a pris un verre de trop. Fait que je me souviens, il y a comme, je pense qu'il y a un, sur deux mois, là, je pense qu'il y avait eu trois vendredis que je gérais une crise de caucus le vendredi à 4h, mais faut t'agir.
Écoute, Marc-André, il y aurait tellement d'affaires que je voudrais jaser, mais je prends deux exemples pour terminer le podcast, là, pour montrer à quel point des gens ont des rôles mais vraiment cruciaux, là, plus qu'on pourrait penser, et que c'est des gens, des fois, que le grand public, certains, les deux noms que je vais donner, les gens n'ont aucune idée c'est qui. Le premier exemple, c'est Catherine Loubier. Donc, moi, c'est un nom que je ne connaissais pas, puis pourtant, je suis l'actualité politique à tous les jours. Là. J'avais une vague consonance dans ma tête que ça, j'avais déjà entendu le nom, mais pas plus que ça. Donc, Catherine Loubier, elle a été au cabinet de Stephen Harper, et elle a été engagée par la CAQ pour faire la transition. Donc, la transition, c'est quoi? C'est quand ils ont gagné les élections, même ça se préparait avant. Et là, on doit passer des libéraux à la CAQ. Et là, c'est pas genre François Legault, il croise Philippe Couillard et il dit « Hey, t'as-tu les clés du bureau? » Non, mais des fois, on pense pas à ces trucs-là, mais c'est... Ça, honnêtement, j'ai été fasciné par la quantité de choses que cette femme-là a gérées. Là. Ça va de détails très techniques jusqu'à même la quantité de ministères qu'elle recommandait au premier ministre de mettre de l'avant avec... En fait, elle s'est arrêtée à recommander Elle a arrêté, rendu au stade, de recommander qui elle voyait dans quelle place. Mmh. Mais tout ce que vous pouvez vous imaginer qui a rapport avec la transition, là, c'est elle, carrément, qui gérait ça. J'ai souligné plein de passages dans ce coin-là. J'en revenais pas comment il y avait... T'sais, regardez, là, j'ai un extrait ici. « Toute la planification des voyages reposait en bonne partie sur Catherine Loubier. Donc, le premier voyage et le deuxième voyage à l'étranger de Legault, c'est elle qui a planifié ça de A à Z. Il va rencontrer Macron, il va aller à telle place, il va parler avec telle autre personne. » Catherine Loubier a couché sa réflexion sur la structure du gouvernement et le nombre de ministères dans un mémo destiné au futur premier ministre Legault et son bras droit, Martin Koskinen. Dans sa note, elle a indiqué le nombre de ministères que le gouvernement devrait avoir et quel ministère devrait changer de nom ou de vocation. C'est à tel point précis son travail et englobant que je me suis dit, mais OK, mais le gouvernement était carrément sur le pilote automatique là, quand ils sont rentrés. Là. Il appliquait la procédure. Elle le dit elle-même, hein, là, au moins le trois quarts de ce qu'elle avait mis de l'avant, ils l'ont carrément fait là, presque intégralement. Là.
Oui, t'as pas le choix. Puis ce qui est plat, c'est que chaque parti politique, souvent, ben, qui ont une chance de remporter, a une équipe de transition. Puis souvent, tu le mets aux poubelles. 2019, il y avait une équipe de transition. Moi, comme chef de cabinet, en plus, j'étais sur la route avec le chef, j'avais décidé de ne pas être. Je voulais pas être dans les réunions avant les résultats de l'équipe de transition. Moi, je voulais me concentrer juste sur la campagne. J'ai fait une réunion de transition qui était 2 heures avant les résultats, puis finalement, bon, ça n'a rien donné. Puis c'est bon aussi, je pense, parce que sinon, tu commences à t'imaginer au gouvernement, puis c'est pas une bonne chose. Mais effectivement, dans le cas de Catherine Loubier en 2018, c'est immense le travail qu'elle a fait. Puis moi, j'ai travaillé avec Catherine au fédéral, puis c'est une travaillante là, acharnée. Par la suite, là, elle a été déléguée générale du Québec à New York. Mais c'est ça, il faut que. Parce que c'est le chaos, là. Surtout quand t'es la CAQ, t'as jamais gouverné. Oui, il y avait des gens qui avaient un peu d'expérience, mais c'est tout de former l'ensemble des équipes, tout ça. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qu'au moment où t'es élu, ben, tu dis voici ce qu'on va faire dans la première conférence de presse, le premier voyage, voici comment on va s'organiser pour pas que tu commences les réunions. Il y a des choses qui changent, là. Puis le premier ministre élu, il y a une latitude, mais faut pas que tu commences les réunions à zéro, là, au jour 1, là. Sinon, tu as l'air vraiment brouillon. Ça va être quoi ton premier projet de loi, par exemple? Fait que toute cette préparation-là, quand tu gagnes, c'est le fun, tu l'appliques. Mais quand tu perds, tu prends ça puis tu mets ça aux poubelles.
J'ai une bonne question piège pour toi. Tu as été à l'interne, donc tu as un bon regard là-dessus. Les députés nous avancent souvent le fait qu'ils travaillent 70 heures semaine. J'ai pas de misère à croire qu'un chef de cabinet le fait. Un Koskinen, là, 70 heures semaine, je suis capable de comprendre ça. Probablement des ministres très clés, je suis capable de le croire. Par contre, je pense qu'on beurre la toast épais un peu dans cette situation-là. C'est quoi ta vue de l'interne? Je sais que le staff politique le fait, mais les élus, là, est-ce qu'on exagère un peu quand on dit qu'on fait du 70 heures semaine de leur côté?
Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Ça, c'est clair, ça, c'est net et précis. Mais c'est comme dans toute chose. C'est autant les employés que les élus. Dans nos milieux de travail, hein, il y a des gens qu'on sait qui travaillent plus fort puis moins fort. Puis oui, tu peux passer du temps, mais tu passes du temps sur quoi aussi également? Ça aussi, c'est un autre,
t'es pas
une autre
productif, chose. Là, je veux
dire. Ben, est-ce que tu es productif? Est-ce que tu rentres dans ton temps? Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu es ministre, quand tu es un chef de parti, quand tu es le premier ministre, quand tu es le staff senior autour de ces gens-là, ton 60-70 heures, là, inquiète-toi pas, tu le fais. Ça, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Moi, personnellement, là, je serais prêt pour une grande réforme. Moi, pas tant avoir le système présidentiel américain, mais pour moi, là, les ministres et les députés, là, c'est deux choses qui devraient être différentes. Tu sais qu'on a parlé beaucoup là, dernières semaines du projet de loi 15.
Sortir les ministres du Parlement.
Ben oui, quand je pense que Christian Dubé a passé 238 heures à écouter sur le projet de loi 15.
Ouais, niaiser sous des
virgules.
Hey, c'est beaucoup là, pour un ministre là, que la santé et les services sociaux, là, que son rôle de député, qui doit siéger, qui doit voter, qui doit être là pour écouter ses collègues, même si une journée il n'y a pas de questions, à période de questions, c'est parce qu'à un moment donné, on en demande beaucoup aux mêmes gens. T'sais. Je pense que l'exécutif devrait être une chose, puis le législatif, les élus devraient être une autre chose, mais quand on essaie de mettre ça ensemble, puis en plus au fédéral, de tous les pays à couvrir. En plus, même les ministres à Ottawa, ils ont des. Souvent, c'est moi qui est député, mais ils ont un 4-5 heures de garde obligatoire, être dans le lobby d'un coup qu'un vote de ci, un coup d'un vote de ça, de procédure. C'est-tu vraiment la meilleure façon de gérer ça?
Non.
Non, je pense c'est... pas. Fait que je pense au-delà du mode de scrutin qui est à revoir. Moi, il y a 10 ans, j'étais vraiment OK, notre système il marche. Là, avec ce qu'on a vu dernière élection provinciale, je pense que ça prend une réforme. Il faut rentrer de la proportionnelle là-dedans. Ça prend une meilleure représentation dans nos parlements. Mais également, on ne peut pas demander non plus à quelqu'un d'être ministre des Finances, de gérer son comté, de gérer le pays, puis venir passer 4-5 heures par semaine de garde, plus les QP, plus les comités qu'il faut qu'ils fassent des apparitions.
Si en plus il est ministre des Nordiques, bon ça va pas bien. Mais
ben, là, c'est ça.
Écoute.
Et des Kings,
oui, c'est ça. Écoute, le dernier exemple que je vais prendre dans le livre, mais qui est, à mon avis, c'est le. Ça. En tout cas, ça a été le bout qui m'a intéressé le plus dans le livre, honnêtement. Là. C'est tout à fait fascinant. C'est le cas de Robert Asselin. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, Robert Asselin était le bras droit de Bill Morneau, ministre des Finances de Justin Trudeau, qu'on pourrait appeler aussi ministre du pot de colle, parce que Justin cassait les plats, puis lui devait essayer de les recoller, d'essayer de recoller les morceaux ensemble. Et honnêtement, tous mes préjugés ont été confirmés en lisant ce truc-là. En lisant ce témoignage-là, c'est incroyable. D'abord, il commence en disant que...
Il y en avait un qui savait compter, puis il n'est plus là.
Ah, puis tu sais, Robert Asselin, de la manière dont je le vois, qui est un nom pas connu du grand public, mais de ce qu'on comprend, c'est lui, c'est un libéral à la sauce Paul Martin.
Oui.
Donc lui, c'est un gars que, tu sais, bon, pas conservateur sur les aspects sociaux, donc plus proche des libéraux pour ce qui est, bon, de la société, tout ça, mais d'un point de vue économique, fait partie de ces libéraux plus classiques-là, qu'un budget, ça s'équilibre, faut faire attention. Puis à la Paul Martin. Et là, eux et Bill Morneau, ils racontent le calvaire de lui et Bill Morneau, de leur début avec Justin Trudeau, où là, finalement, ils se rendent compte que le budget qui devait être accordé pour les chèques aux familles que Trudeau avait annoncé comme étant de 18 ou 19 milliards, finalement, ça va coûter 23. Et là, ils racontent des rencontres qu'ils ont eues. Donc là, ils sont dans le bureau, Justin Trudeau avec sa garde rapprochée, Bill Morneau est là, Robert Asselin. Et là, on dit, il fallait faire le point sur la situation et reconsidérer la mise en place de certaines promesses électorales. Là, entre autres, ils lui disent, écoute, ramener la retraite à 65, ça n'a pas d'allure, faut laisser ça là, le prix politique a déjà été payé par Harper de toute façon. Il faut couper quelques milliards par ici, par là. Et finalement, le PM ne veut rien savoir, dit non, je m'en fous des déficits, ça va comme ça que ça va aller. Et là, il dit... La position qu'on a prise dès le départ nous a créé pas mal de problèmes avec l'équipe au bureau du premier ministre. Et là, il dit, Bill Morneau, à un moment donné, il envoie une lettre à Justin Trudeau en disant et aux autres ministères en disant, là, je veux rien savoir de vos demandes de budget par rapport. On a des... faut qu'on boucle un budget, là, on n'a pas le choix. Et là, il dit que tous les ministres libéraux lui réécrivent en ayant plein de demandes un peu farfelues. Ils veulent des millions à gauche, à droite. Et Trudeau prend pas vraiment son bord non plus. Il laisse pédaler avec ça. Et grosso modo, il nous dit finalement, c'est là que après deux budgets, il a décidé de rompre les liens, même s'il était directeur du budget, Robert Asselin. Puis faisait... En fait, c'est Robert Asselin, que vous avez probablement jamais entendu le nom, c'est la dernière personne à avoir validé un budget du fédéral. T'sais, techniquement. Là. Donc, le dernier qui a passé dessus avant que le ministre se promène avec dans les mains pour faire des photos, c'était lui, pendant deux budgets. Et là, il dit... c'est tout à fait fascinant, ce bout-là. Là. Il raconte plein d'histoires qu'ils ont... Un moment donné, Morneau a dit à Trudeau, « Là, c'est assez. Moi, je signe plus rien de ces trucs-là. » Trudeau, « Non, non, c'est correct. C'est pas grave, le déficit. Ça va se balancer lui-même. » Puis c'est impressionnant, pareil, de voir à quel point... À l'intérieur même d'un parti, t'as des frictions, là, des résistances. Puis, tu sais, Bill Morneau, beaucoup de gens attaquaient sa crédibilité là, lors des budgets. Ils disaient, ah, mais ce gars-là, il sait pas compter, c'est n'importe quoi, ils vont nous mettre dans la dette pour des décennies. Mais ce qu'on se rend compte en lisant le témoignage de Robert Asselin, c'est qu'une Christie de chance qui était là, parce que ça aurait été 10 fois pire. Hein.
Oui, ça aurait été 10 fois pire. Oui, effectivement, t'as raison, ça aurait été 10 fois pire. Puis, Robert était très généreux là, dans ce qu'il dit. Puis en plus, mon livre a paru là, quelques mois avant la biographie de Bill Morneau. Puis, tu sais, le livre est en français, mais même les jours, quand c'est sorti, il y a un texte dans la presse et sur cet épisode-là avec Robert Asselin, puis Bill Morneau, puis Justin Trudeau. Puis là, la presse anglophone, là, également, il y a un article là, dans Globe and Mail, justement, parce que là, ça a vraiment... ça l'a confirmé un peu ce qu'on voyait, puis pourquoi Bill Morneau est parti, là, parce que vraiment, il ne s'entendait pas avec le premier ministre. Le premier budget était quand même pas si mal, malgré qu'il avait sous-estimé là, les chèques aux familles. Mais le deuxième budget, là, ça a été l'enfer. Là. Quand tu es obligé de faire plusieurs rencontres parce que là, ça, il n'était pas d'accord. Puis même cette année, là, on a entendu là, sur la mise à jour économique que M. Trudeau, Mme Freeland, là, ils ne s'entendaient pas vraiment. M. Trudeau trouvait que Mme Freeland n'était pas assez ambitieuse. Ça. Probablement, ça veut dire. C'est des sous dans ce
cas-là. Lui, c'est un dépensier, c'est l'enfer.
Oui, lui, mais là, dans son, jamais Justin Trudeau va faire un budget équilibré. À chaque fois qu'il y a un budget ou une mise à jour, est-ce qu'il va être équilibré?
Non.
C'est comme le non. Il y a une fois là, qu'on montrait des chiffres qui allaient s'équilibrer. Puis, mais tu sais, quand tu penses en plus, oui, et là, il annonce l'assurance dentaire, là, l'assurance médicaments, ça, c'est un autre 12-15 milliards par année. Ils n'ont rien pour équilibrer.
C'est incroyable. Et à un moment donné, Robert Asselin dit, j'étais content parce que Bill Morneau m'avait donné le rôle de Monsieur Non. Il dit, j'étais quand même assez ferme là, avec les. Ça me faisait plaisir. En fait, on sent qu'il se gâtait un peu. Il dit, ça me faisait plaisir. On m'appelait pour me demander des affaires. Puis je lui disais tout le temps non. Puis Bill Morneau était bien content. Puis je me dis. Puis là, je lisais ça, mais je me disais, s'il y avait une chance qui était là, c'était ces deux-là, parce que. Mais les libéraux, c'est comme si l'argent pousse dans les arbres. Mm. C'est incroyable.
Totalement, mais je trouve ça intéressant, Frank, que tu parles du mot « non », parce que quand tu es longtemps comme employé politique, là, le problème, là, c'est que tu dis peut-être 100 fois plus souvent « non » que « oui ». Et à un moment donné, là, à force de dire « non » à tout le monde, parce que tu es le « bad cop », tu sais, pour protéger ton chef, ben là, c'est là qu'à un moment donné, c'est le temps que tu quittes. Là.
Ouais.
C'est le temps que tu testes ta place, parce que les gens... Un candidat qui va envoyer un communiqué de presse ou un ministre qui demande de quoi pour un budget ou telle annonce, là, t'es là non. Tu dis plus souvent non parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui rentrent que qui sortent. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, tu te fais des ennemis, entre guillemets, puis t'es mieux de quitter aussi.
En conclusion, ce que j'aimerais terminer avec une petite quote que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est Luc Lavoie qui dit ça à la fin du livre. Il dit j'ai trouvé que c'était quand même un message intéressant d'humilité par rapport à ce métier-là. D'être comme chef de cabinet ou employé politique, il dit « Dans un poste comme celui que j'avais sous Mulroney, si je devais parler avec le chef d'état-major de la Défense nationale, je l'appelais et je l'avais sur la ligne en 2 minutes. À un moment donné, tu finis par penser que tu es quelqu'un d'important alors que tu n'es pas si important que ça. » Est-ce que... moi, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui le réalise, ça.
Non, mais tu le réalises à un moment donné que c'est ton titre. T'sais, c'est ton titre à un moment donné. Quand moi, je suis arrivé à Ottawa là, en 2009, là, j'étais conseiller recherchiste à l'aile parlementaire. On était au gouvernement. Là, j'étais peut-être le 800e sur 801 employés là, en termes d'importance. Après ça, tu te ramasses dans ton équipe, tu te ramasses le premier. Tu restes la même personne. Mais non, Luc a raison. Parce qu'à un moment donné, c'est ton titre. Là, quand tu décroches le téléphone, je suis chef de cabinet d'un tel, décide de ça. C'est pas toi en tant d'individu, c'est le titre que tu représentes et l'importance que ton chef te donne. Mm-hmm. Parce que la minute où ton chef ou ton patron te dit que c'est terminé, il te reste l'individu que t'es. Là. Fait que c'est. Puis après ça, il n'y a plus personne qui veut répondre à ton téléphone une fois que tu as perdu ce titre-là. Fait que non, c'est. Il faut. La politique, c'est une drogue dure. C'est une drogue dure pour les élus, c'est une drogue dure pour les employés politiques. Moi, souvent, la question que je me fais le plus poser, surtout depuis un an avec le livre, c'est si je vais retourner en politique comme employé. Puis la réponse est non.
Je retournerai pas
en politique. Oui, moi, je l'ai fait. J'ai fait mon 10 ans. Ça aurait pu marcher en 2019. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, ça prend des jeunes loups, d'autres personnes pour faire évoluer ça. Parce que quand tu le fais, puis tu ne peux pas passer ta vie. Il y en a qui le font, mais passer ta vie à de haut niveau avec des postes hyper importants en politique, à un moment donné, il était mieux de te retirer puis laisser les autres
aller. Dans le livre, à la fin, tu parles, il y a une citation de Carl Blackburn, puis je la lirai pas, mais grosso modo, il dit « Quand tu fais ce métier-là, que tu es à l'intérieur de la politique, comme ça, il y a beaucoup d'amitié. » Qui sont brisés, qui sont maganés, tout ça, sans nommer de nom, ben, je veux pas que ton téléphone se mette à sonner là, tantôt. Là. C'est-tu quelque chose que tu as vécu aussi, là, des gens que tu disais, OK, je suis très proche de lui, on est allé à la guerre ensemble, puis finalement, on ne se reparle plus après, ou disons que les rapports sont tendus. Là.
À très, très, très haut pourcentage, ça reste des amis. Puis ça reste des amis qui étaient allés à la guerre. Puis moi, oui, il y en a. Il y en a que je pourrais nommer que oui, il y a des amitiés brisées. Puis bon, ça fait partie de la vie. Mais très, très grande majorité, moi, je garde que des souvenirs positifs. Pour moi, là, être chef de cabinet, c'était le plus beau métier du monde. Puis ça l'est encore aujourd'hui. C'est exigeant, c'est demandant. Je sais qu'il y a des journalistes. Là, je pense à un journaliste à Kik, à Saguenay. Qui avait peut-être, disait, moi j'avais peut-être un rêve un jour d'être employé politique, il dit, j'ai lu le livre à Marc-André, puis là, j'ai plus de rêve. C'est pas ça non plus l'objectif, là. Je vais te montrer la vérité. Je vais pas non plus tourner les coins ronds, puis mettre des lunettes roses, puis dire comment c'est beau, puis c'est fin, puis c'est kumbaya. En parlant avec ces gens-là, en parlant aussi d'une bonne portion, je parle au début, je parle également de mon histoire, c'est pas évident, mais ça fait. C'est un bagage qui est tellement intéressant parce que tu touches à tout. Là. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu touches à tout. C'est sûr, moi, j'étais plus un gars de com, moi, un gars de politique en termes de policy. Là. Moi, si tu voulais m'ennuyer, là, tu me mettais dans un meeting de policy pour monter un projet de loi. Là. Mais sinon, il y a beaucoup de choses que, tu sais, qui sont intéressantes. Tu sais, campagne de 2019, tu fais le tour du pays. Tu es traité comme un roi. Tu atterris, l'autobus est là, tu as des gens qui s'occupent de toi, tu arrives à l'hôtel. Ton équipe d'éclaireur te donne ta clé, tu sais, je veux dire, t'es dans, tu sais, je veux dire, c'est une vie de tournée là, de stars, là, tu sais, on met des millions, là, tu sais, chaque partie pour organiser ça, mais ça reste des expériences, puis des amitiés, puis il y a des gens que je parle quasiment encore presque à tous les jours, qui sont encore en politique ou peu en politique, puis je veux dire, ça fait partie de ça, mais moi, je suis vraiment content. Oui, il y a des amitiés brisées, ça fait partie de la vie, ouais. Puis pour le moment, que si ces gens-là, si tu vas t'asseoir avec eux, tu prends une bière ou deux, probablement que tu réglerais ça. Mais bon, on ne peut pas non plus là,
non, c'est ça.
Rester ami avec tout le monde. Puis
pas ben non, si de toute façon, si des gens veulent un monde de licorne, peut-être qu'un jour Justin Trudeau fera paraître ses mémoires. Écoute, nos auditeurs, c'est beaucoup des geeks politiques, dont je le rappelle, ouais. Là, Confidence politique, Marc-André Leclerc, incursion dans l'entourage de nos élus, avec la préface de Mario Dumont qui est dans ton livre. C'est vraiment, écoutez, on aurait pu faire 3 heures là-dessus. Là, il y a au moins le 3/4 des affaires que j'ai notées dont on n'a pas parlé. Fait que c'est pas parce que vous avez écouté ces 2 épisodes-là que vous allez manquer de contenu en lisant le livre. Donc, je pense que c'est une bonne suggestion pour le temps des fêtes, pour les vacances, ceux qui ont du temps un peu. Là, honnêtement, vous allez en apprendre des vertes et des pommures sur ce qui se passe derrière les rideaux de la politique. Puis, Marc-André, merci de t'être prêté au jeu puis d'être venu jaser de ton bouquin avec nous autres. C'était super apprécié.
Un grand plaisir. Merci de l'invitation.
Merci. Yes. Un conservateur de médias, ça ne peut pas faire de tort. Peut-être qu'on va arrêter de dire que les conservateurs, c'est juste l'avortement un jour.
Un jour. C'est fun.